Chapitre 6. L'hôpital de Sauveterre, dit le guide Joanne, est, malgré ses proportions restreintes, un des deux établissements hospitaliers les mieux entendus des deux Charentes. La chapelle et les bâtiments neufs sont dus à la pieuse munificence de la comtesse de Maupaison, veuve du ministre de Louis-Philippe. Mais ce que ne dit pas Joanne, c'est que l'hôpital doit à Madame Sénéchal la fondation de 3 lits pour les femmes en couche. C'est également de ces deniers qu'ont été construits les 2 pavillons qui flanquent la grande porte. Un de ces pavillons, celui de droite, est occupé par le portier, le sieur Vaudevin, un vieillard superbe qui, jadis, était suisse à la cathédrale et qui aime encore à se rappeler ce temps où, pour sa magnifique prestance, par son uniforme rouge, son baudrier d'or, sa hallebarde et sa canne à pommes d'argent, il contribuait aux pompes du culte. Ce portier, le dimanche matin, un peu avant 8 heures, fumait sa pipe dans la cour lorsqu'il vit arriver M. Saignebosse. Le docteur marchait d'un pas plus saccadé que de coutume, le chapeau sur les yeux, signe de bourrasque, et les mains enfoncées jusqu'au coude dans ses poches. Au lieu d'entrer, comme tous les jours avant sa visite, dans le réduit de la sœur pharmacienne, c'est chez Madame la supérieure qu'il monta tout droit. Là, après un léger salut, « On a dû, ma sœur, commença-t-il, vous amener hier soir un malade, un idiot du nom de Coqueleux. »«
En effet, docteur. »«
Où l'avez-vous placé ?»«
Monsieur le maire lui-même l'a fait installer dans la petite chambre qui est en face de la lingerie. »
Et comment s'est-il comporté?
Très bien, la sœur veilleuse ne l'a pas entendu bouger.
Merci, ma sœur, dit M. Saignebosse. Et déjà il gagnait la porte quand Madame la supérieure le retint.
Montez-vous donc visiter ce malheureux, monsieur le docteur, demanda-t-elle.
Oui, ma sœur, pourquoi?
C'est que vous ne pouvez pas le voir.
Je ne puis pas.
Non, nous avons reçu de monsieur le procureur de la République l'ordre d'empêcher qui que ce soit, hormis la sœur qui le soigne, d'approcher de Coqueleux. Qui que ce soit, docteur, même le médecin, à moins d'urgence, bien entendu.
Monsieur Saignebosse eut un geste ironique.
Ah, vous avez cet ordre, fit-il en ricanant. Eh bien, moi, je vous déclare que je le tiens pour nul et non avenu. M'interdire l'accès de mon malade, voyez-vous ça? Que monsieur le procureur de la République mande, ordonne et commande dans son palais de justice, rien de mieux. Mais ici, dans mon hôpital, ma sœur, je monte chez Coqueleux.
Docteur, vous n'entrerez pas. Il y a un gendarme de faction devant la porte.
Un gendarme?
Qui nous est arrivé ce matin avec la consigne la plus sévère. Un instant, le docteur demeura abasourdi. Puis, tout à coup, avec une violence extraordinaire et des éclats de voix à faire trembler les vitres,
« C'est un procédé inouï, s'écria-t-il, un abus de pouvoir intolérable. Et par les 100 000 tonnerres du ciel, j'en aurai raison et justice me sera rendue quand je devrais aller jusqu'à Thiers. »
Et sans saluer cette fois, il s'élança dehors, traversa la cour et partit comme un trait dans la direction du logis du procureur de la République. En ce moment même, M. d'Aubigeon se levait, mécontent parce qu'il avait passé une mauvaise nuit, ayant passé une mauvaise nuit parce qu'il était horriblement préoccupé de cette affaire Boiscourant, comme on disait déjà. C'est qu'il partageait presque la conviction de M. Galpin d'Aveline. Vainement, il se rappelait le noble caractère de Jacques, son admirable loyauté, ses sentiments si vifs de l'honneur. Les preuves étaient là, flagrantes, indiscutables. Il voulait douter, mais l'impitoyable expérience lui criait que le passé de norme ne répond pas de son avenir. Et d'ailleurs, de même que plusieurs criminalistes, il pensait, sans trop oser le dire, que beaucoup de grands coupables agissent sous l'empire d'une sorte de vertige, et que c'est ainsi que s'explique la stupidité, la naïveté presque de certains crimes, commis par des gens d'une intelligence supérieure. N'importe, depuis son retour de Boiscourant, il s'était tenu obstinément enfermé et il était en train de se promettre de ne pas sortir de la journée lorsqu'on sonna chez lui à briser la sonnette. L'instant d'après, le docteur Saignebosse entrait comme une bombe.
Je sais ce qui vous amène, s'écria M. d'Aubigeon. Vous venez pour cet ordre que j'ai donné relativement à Coqueleu.
C'est bien cela, oui, monsieur. Cet ordre est une injure.
Il m'a été formellement demandé par M. Galpin d'Aveline.
Et vous ne le lui avez pas refusé, monsieur. C'est vous seul, par conséquent, que j'en rends responsable. Vous êtes procureur de la République, c'est-à-dire le chef du parquet et le supérieur de M. Galpin.
M. d'Aubigeon hochait la tête.
« C'est en quoi vous vous trompez, docteur, dit-il. Le juge d'instruction ne dépend ni de moi ni du tribunal. Il est en quelque sorte même indépendant du procureur général qui peut bien lui adresser des avertissements, mais non lui tracer une ligne de conduite. M. Galpin d'Aveline, en tant que juge d'instruction, exerce une juridiction à part et il est armé de pouvoirs presque illimités. » Mieux que personne, un juge d'instruction peut dire avec le poète « Ainsi je veux et j'ordonne, et ma volonté suffit. Hoc volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas. »
Positivement, M. Saignebosc se sentait désarmé par l'accent de M. d'Aubigeon.
« Ainsi, fit-il, M. Galpin a même le droit de priver un malade des soins du médecin. »
Sous sa responsabilité, oui, mais telle n'est pas son intention. Il se proposait même de vous convoquer officiellement, quoique ce soit aujourd'hui dimanche, pour assister ce matin à un nouvel interrogatoire de Coqueleu. Je suis surpris que vous n'ayez pas reçu son assignation ou que vous ne l'ayez pas vu à l'hôpital à l'heure de votre visite.
Alors j'y cours, s'écria le médecin.
Et il repartit précipitamment et bien lui prit de se hâter, car sur le seuil de l'hôpital, il se trouva en face de M. Galpin d'Aveline, lequel arrivait d'un pas solennel, suivi de son inévitable greffier Méchiné.
« Vous arrivez à propos, monsieur le docteur, » commença le juge.
Mais si rapide qu'eût été la course du docteur, elle lui avait donné le temps de réfléchir et de se calmer. Au lieu donc d'éclater en récrimination,
« Oui, je sais, » répondit-il d'un ton de politesse railleuse.
C'est au sujet de ce pauvre diable à qui vous avez donné un gendarme pour garde-malade. Nous pouvons monter, je suis tout à vos ordres. »
La chambre où l'on avait placé Coqueleu était vaste, blanchie à la chaux, et n'avait pour tout meuble qu'un lit, une table et deux chaises. Le lit devait être bon, mais l'idiot en avait enlevé matelas et couverture et s'était couché tout habillé sur la paillasse. C'est là que le trouvèrent le médecin et le juge. Il se dressa à leur vue, mais, apercevant le gendarme, il poussa un cri et fit un mouvement pour se cacher sous le lit. Ce fut même si manifeste que M. Galpin d'Aveline ordonna au gendarme de sortir. S'avançant alors,
« N'aie pas peur, mon garçon, » dit-il à Coqueleu. « Nous ne te ferons pas de mal. Seulement, il faut nous répondre. Te souviens-tu de ce qui est arrivé l'autre nuit au Valpinçon ?»
Coqueleu éclata de rire, de ce rire navrant particulier aux idiots, mais il ne répondit pas. Et c'est en vain que, pendant une heure, le juge varia ses questions, priant, menaçant et promettant tour à tour, invoquant même le souvenir de Madame de Clodieuse. Il ne lui arracha pas une syllabe. À bout de patience, « Allons-nous-en, dit-il enfin, ce misérable est décidément au-dessous de la brute. »
« Était-il donc au-dessus, monsieur ?» demanda le docteur, « quand il vous a désigné monsieur de Boiscourant ?»
Mais le juge parut ne pas l'entendre, et au moment de quitter Coqueleu,
« Vous savez que j'attends votre rapport, docteur, » dit-il au médecin.
« Avant 48 heures, j'aurai l'honneur de vous le remettre, monsieur, » répondit monsieur Saignebosc. Et tout en s'éloignant,
« Même, grommelait-il, ce rapport pourrait bien vous gêner, monsieur le juge. »
M. Galpin d'Aveline fut entré dans une belle colère s'il eût soupçonné la vérité. Le rapport de M. Saignebosc était prêt, et s'il ne le remettait pas immédiatement au juge d'instruction, c'est qu'il avait calculé que, plus il tarderait, plus il aurait chance de déranger le plan de la prévention. « Puisque je le garde encore 2 jours, pensait-il, tout en regagnant sa maison, pourquoi ne le communiquerais-je pas à cet avocat venu de Paris avec Madame de Boiscourant ? « Rien ne m'en empêche que je sache, puisque dans son trouble, ce pauvre Galpin a totalement oublié de me faire prêter serment. » Mais il s'interrompit.
Oui ou non, selon le code qui régit la médecine légale, avait-il le droit de donner connaissance d'une pièce de l'instruction à l'avocat du prévenu ? Cette question le troublait, car s'il se vantait de ne pas croire en Dieu, il croyait fermement aux devoirs professionnels et se fût fait hacher en morceaux plutôt que de manquer aux obligations médicales. « Mais mon droit est clair, grommelait-il, et indiscutable, c'est le serment seul qui engage. Les textes sont précis et formels. J'ai pour moi les arrêts de la Cour de cassation des 27 novembre et du 27 décembre 1828 et ceux du 13 juin 1835, du 8 mai 1844 et du 26 juin 1863. » Le résultat de cette délibération fut que le docteur Saignebosse, dès qu'il eut déjeuné, mit son rapport dans sa poche et s'en alla, par les rues détournées, sonner rue de la Rampe, chez M. de Champdoré. Tante Lavarande et Mme de Boiscoran étaient encore à la grand-messe, où elles avaient cru politique de se montrer, et il n'y avait au salon que Mademoiselle Denise, grand-père Champdoré et maître Folga. Grande fut la surprise du vieux gentilhomme en voyant apparaître le docteur. M. Saignebosse était bien son médecin, mais il y avait entre eux de telles divergences d'opinion que jamais, hors les cas de maladie, ils ne se visitaient. « Si vous me voyez, dit le docteur dès le seuil, c'est que, sur mon âme et conscience, je crois M. de Boiscoran innocent. » Pour ces deux mots, Mademoiselle Denise lui eut sauté au cou, et c'est avec l'empressement de la reconnaissance qu'elle lui avança un fauteuil en lui disant de sa plus douce voix « Asseyez-vous donc, je vous prie, cher docteur !»« Merci, » fit-il brusquement, « bien obligé. » Et s'adressant plus particulièrement à maître Folga, « Ma conviction, dit-il, revenant à sa marotte, est que M. de Boiscoran est victime du courage qu'il a eu d'affirmer hautement ses opinions républicaines. Car votre futur petit-fils est républicain, monsieur le baron. » Grand-père Champdoré ne sourcilla pas. On fut venu lui apprendre que Jacques avait été membre de la commune, qu'il n'en eût probablement pas été plus ému. Denise l'aimait, cela suffisait. Or, poursuivait le docteur, « Je suis radical, moi, maître... »« Folga, » dit l'avocat. « Oui, maître Folga, je suis radical et il est de mon devoir de défendre un homme dont la religion politique se rapproche de la mienne. C'est pourquoi je viens vous soumettre mon rapport médical afin que vous en tiriez parti pour la défense de M. de Boiscoran et que vous me suggériez vos idées. »« Ah, c'est un immense service, monsieur !» s'écria le jeune avocat. « Mais entendons-nous, » fit sévèrement le médecin. « Lorsque je parle d'adopter les idées que vous pourriez avoir, c'est en tant qu'elles ne blesseront en rien la vérité. Pour arracher mon fils, si j'en avais un, à l'échafaud, je ne souillerais pas mes lèvres d'un mensonge qui serait une atteinte à la majesté de ma profession. » Il avait tiré son rapport de la poche de sa longue lévite, il le déposa sur la table en disant « Je viendrai le reprendre demain matin. » D'ici là, vous aurez le temps de le méditer. Je voudrais seulement vous en signaler la partie essentielle, le point culminant, si j'ose m'exprimer ainsi. » Il s'exprimait, en tout cas, avec une sorte d'hésitation et en regardant fixement Mademoiselle Denise, comme pour lui faire comprendre qu'il eût été content qu'elle se retirât. « Une discussion médico-légale, fit-il, n'intéressera guère mademoiselle. »« Eh, monsieur, interrompit la jeune fille, « comment ne serais-je pas intéressée passionnément lorsqu'il s'agit de l'homme dont je dois devenir la femme ?»« C'est que les dames sont, en général, très impressionnables, » dit assez peu poliment le docteur, « très sensibles. »« Rassurez-vous, docteur, pour le salut de Jacques, je saurai montrer une énergie virile. » Le docteur connaissait assez Mademoiselle Denise pour comprendre qu'elle ne s'éloignerait pas. « Comme il vous plaira, » grommela-t-il. Et se retournant vers maître Folga, vous le savez, reprit-il, deux coups de fusil ont été tirés sur M. de Clodieuse. Le premier, qui l'a atteint au flanc, a, comme on dit, légèrement écarté. Le second, qui a frappé l'épaule et le cou, a fait balle. Je sais cela, dit l'avocat. La différence des effets prouve que ces deux coups de feu ont été tirés de distances inégales, le second de plus près que le premier. « Je sais, je sais. Permettez, si je vous rappelle ces détails, c'est qu'ils ont leur valeur. appelé au milieu de la nuit près de M. de Claudieuse, je procédai immédiatement à l'extraction des grains de plomb. Pendant que j'opérais, M. Galpin est arrivé. Je croyais qu'il allait me demander à voir les plombs déjà retirés. Il n'en a pas eu l'idée, tant il avait la cervelle à l'envers. Il ne songeait qu'au coupable, à son coupable. Je ne lui ai pas rappelé l'ABC de son métier, ce n'est pas mon affaire. Le médecin doit obtempérer aux injonctions de la justice, mais non pas aller au-devant. Et alors ? Alors, M. Galpin est parti pour Boiscoran et j'ai continué ma besogne. J'ai extrait 57 grains de plomb des plaies du côté et 109 des blessures de l'épaule et du cou. Et cela fait, savez-vous ce que j'ai constaté ? Il s'arrêta, ménageant son effet, et la tension lui semblant assez surexcitée. « J'ai constaté, reprit-il, que le plomb des deux blessures n'est pas pareil. » Monsieur de Chandoré et Maître Folga eurent en même temps une même exclamation. « Oh !» Le plomb du premier coup, continua Monsieur Seignebos, celui qui a atteint le flanc, est de la cendrée aussi menue que possible. Le plomb des blessures de l'épaule, au contraire, est d'un numéro assez fort, de celui, je crois, qu'on emploie pour le lièvre. J'en ai là, d'ailleurs, des échantillons. » Et en disant cela, il dépliait un morceau de papier blanc où se trouvaient 10 ou 12 grains de plomb tachés de sang coagulé et dont la différence de grosseur sautait aux yeux. Maître Folga semblait confondu. « Y aurait-il donc eu 2 assassins » murmura-t-il. « Je pense plutôt, dit Monsieur de Chandoré, que l'assassin, comme beaucoup de chasseurs, avait un canon chargé pour les petits oiseaux et l'autre pour le lièvre ou le lapin. » En tout cas, reprit Maître Folga, ceci écarte toute idée de préméditation. Ce n'est pas avec de la cendrée qu'on charge son fusil quand on part pour tuer un homme. En ayant assez dit à ce qu'il pensait, le docteur Seignebos se levait pour se retirer lorsque Monsieur de Chandoré lui demanda des nouvelles du comte de Claudieuse. Il n'est pas bien, répondit le docteur. Le déplacement, malgré toutes les précautions, l'a énormément fatigué. Car il est à Sauveterre depuis hier, installé provisoirement dans une maison que M. Sénéchal lui a louée, rue Mautrec. Toute la nuit, il a eu le délire, et quand je me suis présenté chez lui, ce matin, je ne crois pas qu'il m'ait reconnu. « Et la comtesse ?» interrogea Mlle Denise. « Madame de Claudieuse, mademoiselle, est tout aussi malade que son mari, et si elle m'eût écouté, elle se fût mise au lit. Mais c'est une femme d'une rare énergie, et qui, d'ailleurs, puise dans son affection pour le comte une force de résistance inconcevable. Il avait, tout en parlant, gagné la porte. « Pour ce qui est de Coqueleu, ajouta-t-il, l'examen de son état mental pourrait bien révéler des particularités auxquelles on ne s'attend guère. Mais nous en recoserons plus tard. Et sur ce, mademoiselles et messieurs, j'ai l'honneur de vous saluer. » « Eh bien, demandèrent Mlle Denise et M. de Chandoré, dès qu'ils eurent entendu la porte de la rue se refermer sur le docteur Seignebos. Mais déjà, s'était refroidi l'enthousiasme de Maître Folga. « Avant de me prononcer, répondit-il prudemment, j'ai besoin d'étudier le rapport de ce digne médecin. » Malheureusement, ce rapport ne contenait rien que n'eût dit M. Seignebos. Et c'est en vain que le jeune avocat employa son après-midi à chercher comment en tirer parti. Il y découvrit, certes, des arguments qui seraient d'une haute valeur pour la défense si M. de Boiscoran venait à être traduit en cour d'assises, mais il n'y trouvait aucun moyen de nature à faire lâcher prise à la prévention. Toute la maison était donc sous l'empire d'une déception cruelle lorsque, sur les 5 heures, le vieil Antoine arriva de Boiscoran. Il semblait fort triste. « Je suis relevé de ma faction, dit-il. Ce tantôt, à 2 heures, M. Galpin est venu lever les scellés. Il était accompagné de son greffier Méchiné et amenait M. Jacques, qui était gardé par 2 gendarmes en bourgeois. L'appartement ouvert, ce Galpin de malheur a fait reconnaître à monsieur les vêtements qu'il portait le soir de l'incendie, ses bottes, son fusil kleb et l'eau de la cuvette. » La reconnaissance terminée, l'eau a été transvasée dans un grand bocal qui a été scellé et confié à un gendarme. On a ensuite mis dans une malle les effets de monsieur, son fusil, plusieurs paquets de cartouches et enfin divers objets que le juge appelait des pièces à conviction. La malle a été scellée comme le bocal, portée sur la voiture, et le galpin est parti en me disant que j'étais libre. « Et Jacques ?» interrogea vivement Mademoiselle Denise. « Quelle était son attitude ?»«
Monsieur, mademoiselle, souriait d'un air de mépris. »
« Lui avez-vous parlé ?» demanda Maître Folga.
« Impossible, monsieur. Le galpin ne l'a pas permis. »«
Et avez-vous eu le temps d'examiner le fusil ?»«
Je n'ai pu que donner un coup d'œil à la batterie. » »«
Et vous avez vu ?»
Le front du fidèle serviteur s'assombrit encore.
« J'ai vu, répondit-il d'une voix sourde, que j'ai bien fait de me taire. La batterie est noire de poudre, preuve que monsieur a tirée depuis que j'ai nettoyé ce maudit club. »
Grand-père Chandoré et maître Folga échangèrent un regard désolé. C'était une espérance, encore, qui s'envolait.
« Maintenant, reprit le jeune avocat, dites-moi comment monsieur de Boiscoran chargeait son fusil. »
« Il le chargeait avec des cartouches, monsieur, naturellement. Il en avait reçu, je crois, 2000 avec le fusil, les unes à balles, les autres à chevrotine, les autres à plomb de tous les numéros. En ce temps où la chasse est fermée, monsieur ne pouvait tirer que du lapin ou de ces petits oiseaux de passage, vous savez, qu'on trouve dans les marais. C'est pourquoi il chargeait un des canons de plomb assez gros et l'autre de menu cendré. » Mais il s'arrêta, épouvanté de l'effet produit par ses paroles.
« C'est horrible !» s'écria Mademoiselle Denise. « Tout est contre nous !»
Maître Folga ne lui laissa pas le temps de s'expliquer davantage.
« Mon brave Antoine, interrogea-t-il, monsieur Galbin d'Aveline a-t-il saisi toutes les cartouches de votre maître ?»«
Non, certes, monsieur !»
« Eh bien, vous allez à l'instant retourner à Boiscoran et vous nous rapporterez 3 ou 4 cartouches de chaque numéro de plomb. »«
Soyez tranquille, répondit le bonhomme, je ne serai pas longtemps. »
Il partit sur cette promesse et il fit, en effet, une telle diligence qu'à 7 heures sonnant, au moment où la famille finissait de dîner et se réunissait au salon, il reparut et posa sur la table un lourd paquet de cartouches.
Monsieur de Chandoré et maître Folga eurent bientôt fait d'en ouvrir quelques-unes et, dès la 7e ou 8e, ils avaient trouvé 2 numéros de plomb qui semblaient exactement pareils aux échantillons que leur avait laissés le docteur.
« C'est une fatalité inconcevable !» murmura le vieux gentilhomme.
Le jeune avocat lui-même semblait bien près de perdre courage.
« C'est de la folie, prononça-t-il, que de chercher à établir l'innocence de monsieur de Boiscoran avant de pouvoir communiquer avec lui. »«
Et si on le pouvait demain ?» demanda mademoiselle Denise.
« Alors, mademoiselle, il nous donnerait la clé du problème que nous essayons en vain de résoudre, ou, dans tous les cas, il nous dirait dans quel sens diriger nos efforts. Mais il n'y faut point penser. Monsieur de Boiscoran est au secret, et vous pouvez croire que monsieur Galpin d'Aveline a pris toutes ses précautions pour que le secret ne soit pas violé.
« Qui sait ?» interrompit la jeune fille.
Et tout de suite, entraînant monsieur de Chandoré dans un des petits salons de jeu qui s'ouvrait sur le grand salon,
« Bon papa, demanda-t-elle, suis-je riche ?»
De sa vie, elle ne s'était préoccupée de cela, et elle ignorait en quelque sorte la valeur de l'argent.
« Oui, tu es riche, mon enfant, répondit le vieux gentilhomme.
« Qu'est-ce que j'ai ?»
Tu possèdes, à toi appartenant, c'est-à-dire du chef de ta mère et de ton pauvre père, 26 000 livres de rente, soit un capital de plus de 800 000 francs.
Et c'est beaucoup?
C'est assez pour que tu sois une des plus riches héritières de Saint-Onge, car tu as, outre ta fortune actuelle, des espérances considérables.
Mademoiselle Denise était si préoccupée de son idée qu'elle ne protesta même pas.
Qu'appelle-t-on l'aisance à Sauveterre ?
Cela dépend, ma chère fille. Et si tu voulais me dire, hein ?
Elle l'interrompit en frappant du pied.
Rien, dit-elle. Je t'en prie, réponds.
Eh bien, mets dans notre petite ville, avec un revenu de 4 à 8 000 francs,
mettons 6.
Soit, avec un revenu de 6 000 francs, on a une honorable aisance.
Et combien faut-il de capital pour faire 6 000 livres de rente ?
À 5%, il faut 120 000 francs.
C'est-à-dire un peu plus du 1/8 de ma fortune.
Justement.
N'importe, je comprends que ce doit être une grosse somme et qu'il te serait peut-être bien difficile, bon papa, de la réunir d'ici à demain. Non, parce que j'ai pour bien plus que cela d'obligations de chemin de fer au porteur et que les titres au porteur sont une monnaie courante. Ah, c'est-à-dire que si je donnais à quelqu'un pour 120 000 francs de ses titres, il n'en serait pas plus embarrassé que de 120 000 francs de billets de banque?
Tu l'as dit.
Mademoiselle Denise souriait, elle touchait au but.
Cela étant, reprit-elle, je te prie, bon papa, de me donner 120 000 francs en titres au porteur.
Le vieux gentilhomme tressauta. Plaisantes-tu? S'écria-t-il. Qu'en veux-tu faire? Mais tu plaisantes sûrement.
Jamais, au contraire, je n'ai parlé si sérieusement, prononça la jeune fille d'un ton où il n'y avait pas à se méprendre.
Je t'en conjure, bon papa, au nom de ton affection pour moi, donne-moi ces 120 000 francs ce soir, à l'instant.
Tu hésites? Oh mon Dieu, c'est peut-être la vie que tu me refuses.
Non, monsieur de Chandoré n'hésitait plus. Puisque tu le veux, fit-il, je vais monter te les chercher. Elle battait des mains de joie.
C'est cela, dit-elle, va vite et habille-toi, parce qu'il faut que je sorte et que tu m'accompagnes.
Et revenant près des tantes Lavarande et de madame de Boiscourant,
« Vous m'excuserez de vous quitter, dit-elle, mais j'ai à sortir. »«
À cette heure, interrompit tante Elisabeth, où veux-tu aller ?»«
Chez mes couturières, mesdemoiselles Méchinet, j'ai envie d'une robe. »
« D'où Jésus ! » s'écria tante Adélaïde, « cette petite perd l'esprit. »«
Je t'assure que non, tante. »«
Alors, je vais aller avec toi. » »«
Non, tante, j'irai seule, s'il te plaît. »« C'est-à-dire, seule avec bon papa. »
Et comme M. de Chandoré reparaissait, les poches gonflées de titres, le chapeau sur la tête et la canne à la main, elle l'entraîna en disant «
Allons, viens, bon papa, viens, nous sommes très pressés. »